Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Nous retrouvons aujourd'hui pour la publication d'un livre d'Henri Brémond qui s'appelle « Histoire littéraire du sentiment religieux en France, les mystiques français du grand siècle » qui vient de paraître aux presses de Renaissance et avec des morceaux choisis par Jean Duchesne, ici présent, et une présentation d'Émile Poulain. Alors Jean Duchesne, vous êtes professeur agrégé au lycée Condorcet à Sainte-Marie-Neuilly. Vous êtes spécialiste des pays anglo-saxons. Vous êtes un des quatre fondateurs de la revue Communio avec Jean-Luc Marion, Rémi Brague et donc Jean-Robert Armogat. Et vous participez à un certain nombre de réunions importantes à New York en particulier sur les relations entre juifs orthodoxes et catholiques. Vous avez publié « Une religion sans état d'âme » chez Des Clés de Brouwer en 2004. Tout récemment, en 2007, une petite histoire d'anglo-saxonie, considérant que vous êtes spécialiste donc, de littérature anglo-saxonne. Et vous avez dirigé donc, différents ouvrages, en particulier ce très beau livre « Histoire chrétienne de la littérature » qui fait presque 1000 pages chez Flammarion en 1996. « Demain l'Église » en 2001. 20 siècles après, au PUF, en 2001 toujours. Et donc, vous venez de faire paraître donc, un choix, parce que l'œuvre est très volumineuse, et donc un choix permettant au public français de mieux découvrir Henri Brémond, d'une part, et l'histoire-littérature du sentiment religieux, sa grande œuvre en particulier. Et donc, nous avons le plaisir de vous recevoir pour mieux comprendre à la fois qui est Henri Brémond, ce qui nous permettra de cerner un peu ce personnage, d'une part, et d'autre part, dans une seconde partie, que vous nous indiquiez un peu comment lire, comment aborder, et grâce à vous, le faire de façon plus synthétique que les 13 volumes de l'œuvre, donc cette histoire littéraire du sentiment religieux. Alors, Henri Brémond est un nom qui semble avoir disparu pour deux raisons sans doute. Le premier, c'est la crise moderniste qui l'a un peu aspiré comme dans un trou noir, et donc, d'une certaine façon, on en parle sans en parler tout en parlant. Et deuxièmement, ce désintérêt pour le religieux. Mais il semble qu'en ce moment, les auteurs ou ceux qui ont lu de la littérature, je pense en particulier à Thibaudet, semblent revenir un peu en force dans le paysage, mettant fin sans doute à une période structuraliste qui a un peu envahi le champ de la compréhension littéraire. Et donc, il y a eu deux éditions de Brémond, l'un en 2005, qui était faite chez Jérôme Millon, et qui, elle, était in extenso, et la vôtre, donc, qui est un choix, enfin, qui permet de suivre les 13 volumes de cette œuvre. Alors, Henri Brémond, qui était-il? Donc, il est né en 1865, à Aix-en-Provence. Il entre chez les jésuites. Il ne sera pas seul de la famille, parce qu'apparemment, deux autres de ses frères seront jésuites. Et puis, peut-être là aussi, un point de convergence ou d'affinité avec vous, il part en Angleterre, parce que la formation des jésuites se faisait en Angleterre. Il s'initie à la littérature anglaise. Il lira à ce moment-là, et ça aura beaucoup d'importance pour lui, Newman. Et puis, revenu en France, il enseignera dans différents collèges jésuites et aura en particulier comme élève Théard de Chardin. En 1892, il devient prêtre et prononcera ses vœux de jésuite en 1900, tout en collaborant à la revue des jésuites, Les Études. Alors, les choses se compliquent un tout petit peu, eu égard à ses amitiés. Donc, il avait noué des relations d'amitié avec Maurice Barrès, mais surtout avec Georges Tyrrell, qui est un anglican converti au catholicisme.
Et jésuite,
de surcroît. Et il est, à ce moment-là, progressivement en mauvaise odeur de sainteté, et il est obligé de quitter la compagnie des jésuites en 1904. Il se réfugie à ce moment-là.
Ce n'est pas qu'on l'expulse, c'est plutôt que c'est un divorce à l'amiable. Hein. Lui souhaite quitter la compagnie.
D'un commun accord, il est effectivement exclu de la compagnie des jésuites. Est-ce que vous pouvez... Donc, il se réfugie à ce moment-là à Aix-en-Provence et part également à Londres, où il rencontrera le baron von Hügel, et puis toujours Tyrell. Alors, je voudrais déjà qu'on essaie de mieux comprendre, avant que d'aller plus loin dans sa compréhension, ce qu'il en est de cette progressive marginalisation de ce personnage au sein de l'Église, considérant effectivement ce climat de crise moderniste. 1907, le pape Pie X condamne les erreurs des modernistes. Loisy est excommunié en 1908. Et Henri de Brémond donc, voit un de ses livres en 1912, Sainte Chantal, mis à l'index. Alors, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer à la fois le contexte de cette crise moderniste qui a eu des répercussions absolument très importantes sur l'Église, et comment est-ce que Henri de Brémond a été progressivement mis de côté, marginalisé, suspecté par l'institution, alors que, semble-t-il, il s'est tenu tout à fait à l'écart des « dérives » entre guillemets que l'on peut reprocher, que l'on a pu reprocher aux modernistes.
Alors, Brémond est une personnalité sympathique, il faut le dire, une personnalité hors du commun. C'est quelqu'un qui, je pense, n'entrait pas dans les moules. Il faut bien voir quelle était la situation de la Compagnie de Jésus donc autour de 1900. Tout ceci, il y a quand même l'arrière-plan, bien c'était quand même la séparation de l'Église et de l'État et la volonté donc avec un parti clérical qui avait une majorité politique. Et dans ces conditions, la Compagnie de Jésus était spécialement soupçonnée, était visée en premier lieu. C'est la raison pour laquelle Henri Brémond avait dû aller faire ses études, comme d'autres, comme Théière de Chardin, comme le père de Lubac, avait dû aller faire ses études en Angleterre. Et disons, et pour résister, donc la Compagnie, disons, sous le feu des critiques, des suspicions, des persécutions aussi, s'il faut dire les choses comme elles sont, avait tendance peut-être, disons, à resserrer un petit peu les boulons et à imposer, y compris au niveau de la spiritualité et de l'esthétique, des critères ou des normes dont il était difficile de dévier, même si ni la foi ni les mœurs n'étaient en cause. Alors c'est un petit peu ce qui est arrivé à Brémond, qui avait incontestablement un tempérament littéraire. C'est, si vous voulez, un abbé littéraire. Il y en a eu. Il n'a pas le degré de sainteté, certainement, de l'abbé Huvelin, qui est le plus grand abbé littéraire de la belle époque. Mais c'était un personnage qui avait d'excellentes relations avec les auteurs. D'autre part, il était convaincu, et cela, je pense, ses supérieurs dans la compagnie n'en étaient pas convaincus, qu'il y avait tout un apostolat à faire au niveau de ce qu'on appelle maintenant la culture. Mais on n'employait pas ce mot-là à cette époque-là. Brémond s'intéressait beaucoup à la poésie. Pour lui, la poésie comme forme suprême de la littérature. Et c'était une conséquence de, si vous voulez, des humanités qu'il avait étudiées et qu'il avait aussi enseignées dans les collèges jésuites. Alors, lorsqu'est venue la crise moderniste, il ne s'est jamais prononcé sur le fond de la crise moderniste, si vous voulez. Il est simplement resté ami. Il n'a pas considéré que ce n'était pas une raison pour laisser tomber des gens qui l'avaient traité en ami, qui l'avaient considéré comme ses amis, ou disons pour ne pas leur rester fidèle. Je vais me risquer un parallèle tout à fait, qui est un peu risqué, parce que ce n'est pas du même ordre. Mais si vous voulez, l'amitié du père de Lubac pour le père Théière de Chardin. Alors, le père Théière de Chardin n'a pas été soumis aux mêmes soupçons que les modernistes. Il n'y avait pas de raison, d'ailleurs. Ouais. Mais il y a quand même eu des soupçons, des accusations, des critiques. Eh bien, le père de Lubac a défendu le père Théière de Chardin à titre d'ami personnel. Uh-huh. Il n'est jamais entré dans les théories, et Dieu sait s'il y en a, si elles sont élaborées, sophistiquées même, du père Théière de Chardin. Il a toujours défendu sa sainteté personnelle. On peut dire, mutatis mutandis, que l'attitude de Brémond vis-à-vis de ses amis modernistes a été un petit peu la même. Il n'a jamais prétendu se prononcer sur la validité ou encore moins sur l'orthodoxie de leurs écrits. Ce n'était pas son rôle. Il a simplement cru jusqu'au bout en leur sincérité, tout en prenant le plus grand soin de rester fidèle. En gros, aujourd'hui, la crise moderniste nous paraît bien exagérée par certains aspects et nous avons du mal. Beaucoup de nos contemporains, du moins, ont du mal à voir ce qu'après tout, il y avait de si abominable. Brémond, de ce point de vue-là, était un petit peu en avance sur nous, tout simplement. Alors, il restait fidèle à Loisy. Alors, j'ai fini au baron von Hügel, qui n'avait pas à craindre les foutes de l'Église, mais au jésuite Tyrell. Brémond était très courageux en allant célébrer les obsèques de Tyrell, qui lui étaient refusées. Il est resté aussi fidèle à Loisy, ce qui était quand même beaucoup, beaucoup plus difficile parce que Loisy avait quand même contre-attaqué avec une virulence certaine et qui n'est peut-être pas toujours à son honneur. Vers la fin de sa vie, Brémond a publié, pas très courageusement sous un pseudonyme, mais sans doute ne pouvait-il pas faire autrement, un petit pamphlet qui, sous le nom de Sylvain Leblanc. Le titre, c'était « Alfred Loisy, un prêtre qui n'a pas trahi ». Il y a encore un autre personnage tout à fait touchant qui a été, peut-on estimer, soupçonné et interdit d'enseigner de manière sans doute injuste. C'est l'oratorien Maurice Labertonnière. Brémond a été aussi proche de Labertonnière et l'a aidé. Alors, on peut dire peut-être une certaine difficulté à saisir des enjeux purement spéculatifs, mais en tout cas, une double volonté d'une part de rester fidèle à l'Église et d'autre part de pratiquer avec des amis une charité vraiment fraternelle.
Alors, pour prendre un exemple de cette fidélité aux personnes plutôt qu'aux idées que ces mêmes personnes portaient, le 15 juillet 1907, donc vous l'avez indiqué, Georges Tirel meurt et l'évêque donc lui a refusé des obsèques catholiques. Et malgré cela, Henri Brémond donc assiste aux obsèques et prononce une allocution. Alors je ne sais pas s'il a présidé aux obsèques ou s'il a juste prononcé une allocution. Il m'a semblé qu'il avait juste dit quelques mots sur la tombe de Georges Tirel et que cette posture, de certaine façon, l'a fait un peu basculer du côté effectivement des modernistes ou des amis des modernistes, qui n'a rien fait pour arranger sa posture. Ce qui aggrave encore entre guillemets sa position, c'est qu'il était donc d'Aix-en-Provence et donc ami de Maurice Blondel. Il a échangé une grande correspondance avec lui qui a été publiée en 71-72, si je ne m'abuse. Donc il appartenait d'une manière ou d'une autre à cette mouvance-là, même si cette appartenance était, comme vous le dites, plus une appartenance de fidélité, d'amitié personnelle, plutôt qu'une appartenance...
Mais aussi avec une certaine foi, si j'ose dire, dans l'ouverture, dans le fait que, dans le pouvoir d'assimilation de la vérité, si je peux emprunter, en la détournant, la formule de Newman sur le développement du dogme. Donc, il pensait n'avoir pas tort sur le long terme.
Alors, donc, cette première partie, disons, enfin de sa vie, l'amène, donc il est toujours prêtre, si je ne m'abuse.
Il restera prêtre voilà. Jusqu'au bout.
Il restera prêtre,
prêtre jusqu'au bout et il continuera à dire sa messe. Il restera prêtre.
Voilà, et donc il se consacre à partir de ce moment-là complètement...
Il vit de sa plume.
Il vit de sa plume, voilà. Donc il se consacre particulièrement donc à l'étude de la littérature qui est, son, comme vous dites, un de ses centres d'intérêt.
En gros, le message de Brémond est intéressant. Parce que, si vous voulez, pour lui, il va s'en rendre compte à partir du moment où il commence à écrire pour son compte, à publier, non plus des articles dans les études, comme cela lui avait été demandé quand il était encore jésuite, mais véritablement des livres. Et alors, c'est là qu'il va s'intéresser à certains auteurs. Alors, il va s'intéresser à Newman. Donc, sa biographie de Newman a été un grand moment. Par exemple, quelqu'un comme le père Bouillet, dont vous êtes très proche, un des grands théologiens français de la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, le père Bouillet fera la connaissance de Newman grâce à Brémond.
Mais tout en reconnaissant aussi des limites à cette,
bien sûr,
à cette biographie
qui était de son point de vue un peu sentimental, à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre. Il aura été le premier, que ce ne soit pas un chef-d'œuvre, que ce ne soit pas parfait. Enfin, il aura été le premier. Il aura été un pionnier. Il aura été un défricheur. Il va s'intéresser à Thomas More, il va s'intéresser à Fénelon, il va s'intéresser à Sainte-Jeanne de Chantal. Alors là, effectivement, il aura quelques ennuis avec la censure ecclésiastique. Et qu'est-ce qu'il découvre quand on essaie de reconstituer un petit peu l'itinéraire de Brémond? Il découvre pour lui ce qui est intéressant dans la religion, ce n'est pas la théologie ni la philosophie. Ce n'est pas l'exégèse non plus, c'est bel et bien la relation avec Dieu. Alors je crois que c'est cela fondamentalement, c'est-à-dire la relation avec Dieu dans la prière ou dans ce qu'on va appeler la mystique, quand cette relation est débarrassée en quelque sorte de toute action pour devenir contemplation pure. Alors il le découvre cela à travers Jeanne de Chantal, à travers un premier livre qui paraît en 1906 sur les âmes religieuses. Et déjà, ce qui l'intéressait chez Newman, ce n'était pas, comment dire, les thèse de Newman. C'était la psychologie, ce qu'il a appelé la psychologie religieuse. Alors, il est très marqué par son époque et sa connaissance de l'anglais lui permet aussi de connaître le travail d'un auteur qui est bien oublié aujourd'hui, mais qui a eu un très grand retentissement à l'époque, ne serait-ce que parce qu'il a été le premier à reconnaître Bergson et à l'inviter aux États-Unis. Cet auteur, c'est William James. On connaît en France son frère Henry, qui était un romancier, qui est même mort britannique. On connaît moins le grand frère.
Bien qu'on commence à le redécouvrir, parce qu'il y a pas mal de traductions en ce moment.
Voilà, mais pendant très longtemps, donc ce qui intéresse Brémond, dans le sillage quand même, hein, à travers les voix que défriche William James, c'est ce qu'il appelle la psychologie religieuse. C'est-à-dire que finalement, bon, la place de l'Église dans la société, le rôle politique de l'Église, etc., tout ça c'est secondaire. Finalement, ce qui est intéressant, c'est Dieu. Alors, on peut dire que de ce point de vue-là, il rejoint par avance, ou il annonce ce que Benoît XVI disait au Collège des Bernardins le 12 septembre. Le fond de la culture, c'est chercher Dieu, querere Deum. Et donc, d'une certaine manière, à l'époque de la querelle moderniste, qui est une querelle sur les outils intellectuels, Brémond, à sa manière, comme il peut, ce n'est pas un grand intellectuel, ce n'est pas un grand spéculatif, mais à sa manière et comme il peut, eh bien, il recentre le débat, il dit ben voilà, ce qui est intéressant, c'est la relation avec Dieu. Et à partir de là, alors, il va commencer à découvrir tout un tas d'auteurs français, spécialement de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle.
Mais pour en rester un petit peu sur sa biographie et puis sur effectivement cette intuition qui était la sienne. Donc, disons, se mettre plus du côté du spirituel plutôt que de l'histoire. Donc, plus un point de vue d'empathie, plus qu'un point de vue extérieur.
Du spirituel, mais aussi de l'esthétique et de l'art et de la poésie.
Cette démarche donc, qui était la sienne l'a fait entrer en conflit avec beaucoup d'autorités et ou d'écoles. Il fallait rentrer en conflit avec les sulpiciens en particulier qui défendaient donc M. Ollier, le fondateur, avec les jésuites, lui considérant effectivement en particulier que, enfin lui Brémond considérant en particulier que l'ascèse dans la conduite des âmes était sans doute trop importante du point de vue des jésuites et que pour lui, et c'est là il y a une intuition qui a sans doute réussi à éclore avec le père de Lubac, que pour lui, il y a un désir naturel presque de voir Dieu et que donc il faut, d'une manière ou d'une autre, développer enfin, cette vocation et que la littérature permet de rentrer en contact ou d'être en contact direct de plein pied avec Dieu. Donc c'est un homme qui, à la fois, comme nous l'avons vu au début, a été par amitié en contact avec des gens qui ont été, eux, dans l'œil du cyclone de la crise moderniste, bien que lui ne le soit pas, ou l'ait été de manière périphérique. Et deuxièmement, quand il va commencer, puis nous en parlerons dans une deuxième partie sur sa grande œuvre, enfin, il est rentré en conflit, selon les intuitions que vous indiquiez, il est rentré en conflit avec un peu les autorités religieuses, enfin, ou les écoles d'un certain nombre de mystiques, de théologiens, enfin, de l'époque. Alors, ça lui donne un positionnement qui était quand même très singulier.
Oui, bon, la polémique avec M. Le Tourneau, pour ne pas le nommer, donc le curé de Saint-Sulpice et donc le supérieur des Sulpiciens, la compagnie de prêtres fondée par Jean-Jacques Ollier au XVIIe siècle, donc n'était pas d'accord avec certaines des interprétations que Brémond proposait de donner. Le livre n'était pas encore paru, n'est-ce pas ? Ce qui prouve qu'il y avait quand même un certain dialogue. Alors, Brémond était dans une position qui est un peu difficile. D'abord, c'était un franc-tireur. Il était tout seul. Mais il disposait quand même d'un certain public. Il avait un public. Il était connu. Et en face de lui, eh bien, il y avait, si vous voulez, des gens qui se battaient en ordre dispersé, mais qui ne défendaient que leur propre chapelle. Et la force de Brémond était d'essayer de transcender ces barrières ou ces frontières entre les écoles de spiritualité et de montrer que tout cela était né d'un même mouvement. Par exemple, ce n'était pas là la pomme de discorde entre l'abbé Brémond et le père Le Tourneau. Mais pour les sulpiciens, tout avait commencé avec Ollier. Or, pour Brémond, non. Il fallait remonter à Bérulle. On n'oublie pas qu'Ollier avait été aussi oratorien chez les oratoriens dans sa jeunesse. Entre Bérulle et Ollier, il y avait encore Condrin, n'est-ce pas ? Et puis, en amont de Bérulle, il y avait aussi le Carmel espagnol, c'est-à-dire Saint-Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Donc, il y avait toute une filiation, pas qu'il voulait montrer. Et donc, évidemment, il avait des objectifs qui n'étaient pas ceux des grands ordres, qui, eux, s'inquiétaient seulement de défendre leur école, ouais. Leur chapelle. Brémond visait quand même beaucoup plus large. Et ça, c'est apporté à son crédit.
Alors donc, ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il a eu une audience extérieure à l'Église. Il avait son public, comme vous dites. Et donc, il a été élu en 1923, donc à l'Académie française. Et peut-être, disiez-vous aussi, pour faire un tout petit peu le pendant, enfin, au Parti clérical. Enfin,
C'était le fauteuil de l'historien dont je suis l'homonyme, Mgr Louis Duchesne, qui est un historien des premiers temps de l'Église, qui vivait à Rome et qui était un personnage un petit peu impertinent puisqu'on lui prête ce mot terrible à propos de la crise moderniste et justement qui plus est à Saint-Pie-X que la barque de Pierre est gouvernée à la gaffe. C'est vraiment une méchanceté, même si elle est drôle. Et donc Mgr Duchesne avait été élu à l'Académie française précisément pour faire enrager le parti clérical et les ultramontains de l'Église de France, puisqu'il était critique vis-à-vis de Rome. Alors, Mgr Duchesne étant décédé, mort de sa belle mort, Brémond n'était pas mal placé pour lui succéder, d'autant plus qu'il était parrainé par Maurice Barrès. Ceci, donc, autre de ses compatriotes aixois. Vous avez quand même, chez Brémond, un certain provincialisme provençal, justement, qu'il est resté fidèle jusqu'au bout. Alors, Brémond, donc, va essayer de montrer que ce qui est intéressant en religion, c'est la spiritualité. Et que cette spiritualité, eh bien, elle se révèle à travers les œuvres d'un certain nombre d'auteurs qu'il va déterrer, puis ensuite faire déterrer des bibliothèques où elles prennent la poussière. Et alors, il nous révèle, et ça va l'amener à une intuition de génie, qui est de montrer qu'il y a une cohérence dans tout cela. Et il va parler de l'école française de spiritualité du XVIIe siècle. Alors, c'est une école qui commence bien sûr avec un personnage hors du commun, qui est le cardinal Pierre de Bérulle. Le pauvre Bérulle est cardinal un petit peu comme le pauvre de Lubac, vraiment tout fait à la fin de sa vie. Il n'a pas le temps d'en profiter longtemps. Mais ce sont les oratoriens. Et alors aussi, c'est aussi un des objectifs de Brémond qu'on aurait tort de sous-estimer, il veut changer un petit peu l'image que donne la culture française scolaire et universitaire de la religion du XVIIe siècle. Tous les élèves qui sont allés au lycée, la petite élite à l'époque qui a suivi des études secondaires, la religion au XVIIe siècle, il y a Pascal et puis Tartuffe. Pour Brémond, cette image-là est insupportablement partiale et caricaturale. Il faut donc arriver à quelque chose de plus juste. Et c'est à quoi il va s'employer.
Nous allons observer une petite minute de pause et nous reprenons juste après.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademie.com.
Donc Jean Duchesne, nous reprenons notre discussion sur ce livre d'Henri Brémond. Et donc, juste pour en terminer avec la biographie, donc il est élu à l'Académie française en 1923 et puis mourra en août 1933, 10 ans après, à l'âge de 68 ans, laissant son œuvre particulièrement inachevée. Et c'est vrai qu'il a toujours connu, du point de vue des littéraires de l'époque, un certain renom. Maurice Martin-Dugard, dans Les Mémorables, parle de lui avec beaucoup de sympathie. Enfin, et il dit de lui, c'était un professeur de belles et saintes lettres, un professeur de plaisir, le goût en personne, avec une passion littéraire effrénée, vrai poète, sans avoir écrit de vers. Alors, venons-en, si vous voulez, parce que c'est quand même le point le plus important, donc à ce monumental travail, enfin, histoire littéraire du sentiment religieux en France. Et donc, le grand avantage de votre livre, c'est justement de faire une compilation, non pas de résumé, mais de prendre des morceaux, partant du principe que le plaisir de la lecture est un plaisir important, et donc que plutôt que de s'en référer aux 13 volumes, vous avez, en prenant les 13 volumes, pris un peu les éléments qui vous intéressaient ou qui vous paraissaient être les plus intéressants. Cet énorme livre donc, a été publié de 1916 à 1933, avec un certain nombre d'inédits. Alors la question que l'on se pose, c'est d'une certaine façon, et on va commencer par le premier élément, c'est qu'on a l'impression d'une œuvre inachevée. L'intention d'origine c'est de faire cette histoire donc de la littérature du XVIe siècle au XXe siècle, voilà, et que malheureusement, faute de temps, ou peut-être en ces temps un peu perdus, enfin, ou égarés dans beaucoup d'auteurs préalables, ils ne dépassent guère Fénelon et sa querelle du quiétisme. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine façon un manque de perspective, enfin, un caractère inachevé à la fois parce qu'il est mort avant, et qu'il y a beaucoup d'éléments de cette histoire du sentiment religieux qui, d'une certaine façon, n'ont pas pu être analysés par lui.
Bien sûr, il n'a pas eu le temps. Il a été débordé par l'ampleur de la tâche qu'il entreprenait pratiquement seul. Alors, il était aidé, il se faisait aider, notamment par son ami, le conservateur de la bibliothèque Méjeanne à Aix-en-Provence, qui lui préparait des fiches, parce que vraiment, on n'avait pas le temps d'aller chercher et tout lire lui-même. Le titre originel, c'était « L'histoire littéraire du sentiment religieux en France, depuis la fin des guerres de religion jusqu'à nos jours ». Brémond, en fait, il avait prévu et annoncé un plan qui était relativement simple. Et puis, eh bien, au fur et à mesure que les fiches s'accumulaient, il se rendait compte qu'il y avait des quantités d'auteurs, souvent inconnus, oubliés, qui ne méritaient pas cet oubli. Et dont il tenait absolument à parler, auxquels il tenait à rendre justice. Si bien que la progression a été ralentie. Et que, eh bien, cela s'arrête dans un tome qu'il a appelé le procès des mystiques. C'est-à-dire que le moment où on commence, au moment de la querelle du quiétisme, à faire un procès, justement, à cette mystique. Et il essaye de bien d'en dégager les enjeux. On ne peut que regretter qu'il n'ait pas pu aller jusqu'au bout, parce que, par exemple, deux indications simplement, la suite qui aurait pu être écrite, d'abord, il aurait pu parler de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui vient quand même bien après, c'est vraiment le XVIIIe siècle, et aussi, il aurait pu contribuer à nous donner une autre idée du XVIIIe siècle que celle que nous avons, celle qui est véhiculée, en gros, par la culture scolaire traditionnelle, qui en fait le siècle des Lumières, et c'est aussi un siècle de très grande sainteté. Il y a une autre école auquel, précisément, Brémond fait un sort. Et son livre, sa grande œuvre-là, a été aussi écrite en réaction contre quelque chose, qui sont, bien sûr, le Port-Royal de Sainte-Beuve, hein, qui a joué une très grande importance et qui a permis, si j'ose dire, je vais être un peu rapide et caricatural, et injuste, mais qui a permis à beaucoup d'incroyants de la Belle Époque de calmer leurs inquiétudes religieuses. C'était donc ce port royal de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve lui-même, parlant de port royal, mais en parlant de manière très intelligente et avec beaucoup de finesse et de pénétration, mais pas du tout en spirituel, parce que Sainte-Beuve n'était pas un spirituel. Donc, Brémond veut, le but de Brémond, c'est bien de rétablir dans la culture française cette idée que la culture classique, dans cette dimension religieuse, ne se limite pas à cette tension insupportable entre Pascal d'un côté et Tartuffe de l'autre, qui est en général tout ce que les élèves connaissent. Donc il veut rétablir des personnages, il veut faire connaître des personnages qui sont absolument extraordinaires.
Une des autres caractéristiques, et ça me permettra de rebondir sur les auteurs qu'il a découverts, c'est qu'on lui reconnaît comme le mérite d'avoir découvert, d'avoir été un sourcier, d'avoir pu mettre à jour des auteurs qui étaient soit complètement oubliés, soit qui n'avaient pas la place qu'ils méritaient. Et Henri Bordeaux, en recevant donc Brémond à l'Académie française, dira de lui qu'il fut un sourcier. Voilà. Alors, quels sont ces auteurs qu'il a découvert d'une manière ou d'une autre.
On ne peut pas les citer tous. Voilà. Je crois qu'il faut. Je vais me limiter à deux ou les trois pour donner envie.
Pour donner envie,
disons à titre de spécimen ou d'échantillon, comme on voudra. Le premier dont on peut parler, c'est un jésuite justement qui s'appelle le père Binet, le père Étienne Binet. Alors il écrit des livres de théologie, des livres de spiritualité, mais aussi, il écrit des encyclopédies. Ce qui montre bien que c'est un homme de l'humanisme dévot, et encore mieux, pour un jésuite, qui, en plus de cette interview à la cour de Henri IV, des recueils de blagues. Il y a aussi une littérature comique. Alors, on peut trouver ça drôle ou pas, mais cette espèce de ce polygraphe extraordinaire, n'est-ce pas, qui réussit à faire des traités de spiritualité, à éclairer le roi Henri IV dans sa politique avec les états pontificaux, l'Italie, etc., à rédiger une encyclopédie et par-dessus le marché a publié des recueils de blagues que l'on s'arrache dans Paris. Voilà un personnage de jésuite en plus, comme on ne serait pas fâché d'en retrouver aujourd'hui. Deuxième personnage, qui est aussi extraordinaire, il porte un nom bien français, c'est Jean-Pierre Camus. Et lui, c'est un évêque. Et c'est un évêque qui... Alors, il est nommé évêque tout jeune. Pourtant, il n'est pas noble en raison de sa sainteté. Et il va même être ordonné par l'évêque dont dépend son diocèse. Il est nommé évêque de Belley, ce qui sera plus tard le diocèse de l'abbé Jean-Marie Vianney. Et son supérieur, l'archevêque métropolitain, c'est Saint-François de Sales. Donc, on a ici un jeune évêque, salésien. Et alors, lui... Donc, il fait des traités de spiritualité, il fait de la direction spirituelle, mais aussi, il écrit des romans. Et ces romans sont extraordinaires. Alors, Brémond en cite de nombreuses pages, que j'ai. Le plus beau étant bien sûr l'histoire de la pieuse Julie. On a le temps de citer de mémoire, on va prendre une page de la pieuse Julie. L'argument, en gros, c'est que la pieuse Julie est une jeune veuve. Quand on parle de jeune veuve, on pense à Célimène. Eh bien, là, pas du tout. Au contraire, elle entre au couvent. Et le problème, c'est que sa famille, les parents de feu son mari, ses propres parents, ses amis, essaient de la dissuader d'entrer au couvent. Heureusement, elle est soutenue par sa soubrette. Alors, la soubrette, ce n'est pas du tout une coquine, une habile coquine. Ce n'est pas une frosine, ce n'est pas une entremetteuse. Au contraire, elle rêve, elle aussi, d'entrer au couvent et elle aide sa maîtresse de toutes ses forces. Et il y a un jeune homme, très bien par ailleurs, qui lui fait une cour assidue et effrénée. Alors finalement, l'une des plus belles pages que cite Brémond d'ailleurs, c'est celui où un jour, s'étant rendu à l'église, Julie et sa servante attendent en vain leur voiture, qui a été retardée par les embarras de Paris. Et à ce moment-là, ils ont une illumination, une inspiration. Le fait que la voiture soit bloquée par les encombrements, c'est un signe de la Providence et aussitôt, sans attendre la voiture, elles se précipitent vers le couvent où elles veulent se réfugier et elles réussissent à y arriver avant qu'on les retrouve. Mais alors elles arrivent toutes crottées, parce que voulez-vous, à l'époque, les rues de Paris n'étaient pas pavées, les voitures, les chevaux, les déjections des chevaux, le crottin, voilà, pour dire choses, se mélangeaient à la boue et à l'eau qui tombait du ciel. Et les deux pauvres petites, la maîtresse et sa servante, arrivent au couvent. Alors plus tard, il y aura des scènes absolument extraordinaires où le jeune homme qui est très sincèrement amoureux d'elle va la voir, obtient un parloir avec elle, menace de se suicider s'il ne sort pas pour le rejoindre. Mais heureusement, tout se finit bien. Voilà donc ces romans.
Oui, des personnages en couleur.
Avec des scènes, si vous voulez, avec des personnages ou en couleur. Un autre roman s'appelle Elle est nain. C'est avant la lettre et écrit à l'époque Les Trois Mousquetaires. Et donc, et tout ceci illustre très bien, si vous voulez, la personnalité de Brémond. C'est un christianisme qui est une foi qui est joyeuse. Qui est, que l'on pourrait dire, humanisme, mais qui a une très grande confiance en l'homme. Alors, troisième personnage, j'en avais annoncé trois.
Oui,
alors, c'est un prêtre du diocèse d'Évreux, qui s'appelle Henri-Marie Boudon. Et alors, il prêche admirablement, mais naturellement, il fait des jaloux. Et un jour, alors qu'il se trouve, je crois, près du Neubourg, il y a un malaise en chair. Et une noble dame veuve, mais c'est toujours le problème des jeunes veuves. À l'époque, les comédies de Molière nous ont bien appris et bien transmis. Donc, accepte de le prendre chez elle. Et il y reste plusieurs jours. Alors, aussitôt, les mauvaises langues s'en mêlent et le malheureux est soupçonné d'avoir profité des complaisances de la dame qu'il admirait vraiment un petit peu trop. Et alors, on lui ordonne de se taire. Alors, il ne reste plus rien à faire que de partir. Alors, heureusement, il est invité par une princesse de Bavière et il part évangéliser la Bavière. Alors, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on n'imagine pas un prêtre qu'on soupçonnerait d'avoir des relations indues avec une femme, invité en Bavière, se mettant et apprenant l'allemand pour aller prêcher là-bas en allemand. Voilà, Henri-Marie Boudon, qui est un personnage extraordinaire, qui demeure une des gloires, me semble-t-il, du diocèse d'Évreux, même si on l'y a un petit peu oublié.
Très bien. Je vois effectivement, ça fait partie des richesses d'Henri Brémond, c'est d'avoir remis à jour un certain nombre d'auteurs qui étaient, et qui le sont peut-être redevenus depuis lors, particulièrement ignorés ou inconnus. Enfin, voilà. Et donc d'aller puiser comme ça dans le...
Il y a beaucoup de pittoresque là-dedans, oui. Mais il y a aussi beaucoup de profondeur. C'est bien, et c'est bien l'objet de la polémique de Brémond contre les jésuites ou certains jésuites de l'époque. En gros, si vous voulez, Brémond reste, comment dirais-je, Brémond à la fois optimiste. Et il considère que, eh bien, l'homme a été fait par Dieu pour Dieu. Et donc, si vous voulez, le sentiment, le fait que l'homme ait besoin de Dieu, c'est cela qui est à la source de sa misère. Mais prendre conscience de cette misère, ce n'est pas cela qui va le sauver. Voilà, il y a donc une spiritualité de Brémond qui est tout à fait à l'opposé du jansénisme. Et c'est cela qu'il essaye de montrer. Son approche du jansénisme est très astucieuse et très intelligente. Il montre bien les ambiguïtés du personnage de l'abbé de Saint-Cyran. Il montre bien aussi quel personnage extraordinaire et très prudent, trop prudent même était Pierre Nicole. Et il a quelques pages sur Pascal qui ne sont pas sans intérêt et qui remuent un petit peu les idées toutes faites que l'on peut avoir.
Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien effectivement qu'il y a une préférence d'Henri Brémond pour la mystique contre, d'une certaine façon, la rhétorique. Donc une préférence de Fénelon plutôt que Bossuet, ce qui lui a été aussi pour partie reproché. Et deuxièmement, ce choix, cette option qu'il indique au début de son œuvre, plutôt dans le sillage de Newman, de choisir, d'opter pour la vie intérieure, enfin, cette proximité optimiste dont vous parliez, cette proximité vis-à-vis de Dieu. Voilà. Alors, je voudrais juste qu'on termine sur cette histoire, parce que la grande nouveauté ou la grande spécificité, sans doute, de Brémond, loin des chapelles, entre guillemets, ou des auteurs qui sont sortis de leur contexte, c'est de faire une histoire. Alors pour lui, il y a trois moments, si j'ai bien compris. Il y a une floraison, hein, un moment entre la fin de la Ligue jusqu'à François de Sales, donc en 1622. Il y a bien un moment où cette histoire mystique, enfin, où cette littérature mystique, religieuse, sentiment religieux...
C'est le premier tome, c'est ce qu'il appelle l'humanisme dévot.
Voilà. Et donc ça, c'est le premier moment qui est le moment d'apparition. Enfin, voilà. Après... les progrès constants, ce qu'il appelle les progrès constants, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir de 1622 jusqu'à la majorité de Louis XIV, donc il y a toute une littérature qui effectivement permet de mieux développer ce qui a été préalablement acquis. Et puis, à partir de 1661 jusqu'à 1715, un déclin de cette littérature. Donc comment est-ce qu'on peut mieux cerner cette histoire, ce moment de floraison, de progrès et puis de déclin qui est sans doute... et vous me reprenez si je me trompe, une des spécificités de la compréhension faite par Brémond de cette littérature religieuse.
Alors le déclin, bon, je ne sais pas si le mot déclin est véritablement le mot propre, ni si même Brémond lui-même y aurait souscrit. C'est-à-dire que, en fait, il ne le cache pas, et c'est la vérité historique, cela veut dire que les mystiques sont l'objet de soupçons. Et ce soupçon prend, sur la fin du règne de Louis XIV, porte sur un point précis, c'est ce qu'on appelle le quiétisme. C'est-à-dire, bon, cette idée que, bon, ce soupçon que l'on se donne trop vite, la quiétude, le repos, en s'imaginant se perdre en Dieu, alors qu'il peut très bien ne s'agir que d'une illusion. Alors, ceci est vrai, hein. Mais ce que Brémond essaye de montrer précisément, c'est que ces soupçons sont en grande partie injustifiés. Et sont liés davantage, plutôt que des complots d'ailleurs, davantage à des incompréhensions. Des incompréhensions dont les responsables ne sont pas uniquement le jansénisme, mais plutôt quelquefois des amis trop bien intentionnés des mystiques. Plusieurs cas, il parle très honnêtement, hein, on commence à avoir peur, si vous voulez. C'est un phénomène d'ailleurs qui se produit pas seulement en France, qui se produit aussi en Espagne avec les alumbrados, hein, c'est-à-dire les illuminés. On a aussi en France des illuminés. On a aussi des affaires pénibles comme les procès en sorcellerie, hein, donc l'affaire de Loudun. Avec la sœur Jeanne des Anges, était traitée de manière très raisonnable, enfin très éclairante par Brémond. Non, ce qu'il veut montrer surtout, c'est que, enfin, il arrête son histoire à un moment, disons un petit peu où c'est le creux de la vague. Donc voilà. Alors après, effectivement, il faut imaginer qu'il y a eu aussi quand même tout un XVIIIe siècle mystique, qu'il y a eu Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et d'autres mystiques encore du XVIIIe siècle, Jean-Pierre de Consade, etc. etc. Hein, y a, donc tout ne s'est pas arrêté là. Mais il est certain que ceci montre bien d'ailleurs qu'en fait la vie mystique, la spiritualité à laquelle il s'intéresse est une aventure qui n'est pas sans risque. Ce que fait Brémond, c'est ça le mérite de Brémond. Il n'essaie pas de promouvoir la mystique en disant bon, oubliez toutes les histoires de politique ecclésiastique, abîmez-vous en Dieu, devenez mystique. Non, non. Il montre bien que la mystique elle-même n'est pas une voie toute droite ni simple, qu'elle comporte des risques et des risques de déviation dont je dirais la personne en prière, Laurent, le spirituel est seul responsable. Et en gros, quand il parle d'école, quand il parle de direction spirituelle, il met le doigt, me semble-t-il, sur quelque chose qui est important aujourd'hui. Je pense que, et ça je ne sais pas si le clergé français y est prêt, ou si c'est possible, ou s'il ne faudrait pas arriver à faire comme ce qu'il signale et décrit lui-même dans ce livre, il ne faudrait pas que ce soit des laïcs qui s'y mettent. Nous avons peut-être besoin aujourd'hui de guides spirituels, de ce qu'on appelait autrefois de direction spirituelle. Pourquoi ? Parce que, eh bien, aujourd'hui, nous sommes beaucoup occupés des questions de liturgie, de politique, d'engagement, etc., etc. Bon, mais il y a la vie personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une voie toute droite, ce n'est pas une voie facile. Et contrairement à ce que nous pensons, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas forcément, même si c'est au plus intime de nous-mêmes, quelque chose qui doit rester strictement privé. Ou du moins qui ne peut pas être partagé.
Donc ça, vous dites que c'est, pour donner envie à nos lecteurs de le lire, ça, vous dites que c'est la modernité, enfin le grand acquis enfin, d'Henri Brémond, cette découverte de la vie spirituelle, ce primat.
La vie spirituelle est une aventure. Et que dans cette aventure, eh bien, nous ne sommes pas seuls. Et je crois que ça, c'est le grand message de Brémond. Alors, nous ne sommes pas seuls parce que nous avons ces auteurs, mais nous pourrions être encore moins seuls, nous pourrions peut-être progresser encore si eh bien, des échanges pouvaient renaître et se développer entre croyants, pas forcément avec des prêtres, au niveau justement de la direction spirituelle. Le problème étant de ne pas se dire qu'est-ce que cette passe d'évangile signifie pour moi ? Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Et comment se donne-t-il à connaître à moi, etc. etc. De déplacer l'intérêt ou de recentrer l'intérêt, je dirais, sur Dieu lui-même et ce que nous pouvons comprendre de lui, et non pas de supposer le problème résolu pour nous demander ce que nous devons faire.
Mais donc son idée, c'est plutôt de l'accompagnement spirituel, c'est ça ? Plutôt que de passer outre l'accompagnement spirituel et d'être en relation directe
non,
avec
l'accompagnement
Dieu
indépendamment. L'accompagnement spirituel, c'est plutôt ma thèse à moi, c'est de dire que c'est ce que Brémond nous permet de redécouvrir, ce dont il nous permet de rêver de nouveau. Et c'est d'ailleurs comme ça, un petit peu comme ça, si nous avons encore quelques temps, que je peux, dire en confiance que nous avons découvert Brémond. C'était à Montmartre, les années, à la fin des années 60,
avec Mgr Charles,
70, autour de Mgr Charles. Mgr Charles était un prêtre hyperactif, s'il n'en fut jamais, fondateur du Centre Richelieu, premier patron du jeune Jean-Marie Lustiger, premier supérieur au patron du jeune Jean-Marie Lustiger, et nommé, grâce à la clairvoyance de ses supérieurs, recteur du Sacré-Cœur de Montmartre. Et alors, donc ce prêtre hyperactif a dû se transformer en professeur de mystique. Et il s'est aperçu assez rapidement que, eh bien, l'adoration du Saint-Sacrement, qui est quand même l'activité permanente, perpétuelle, de la basilique de Montmartre, avait ses origines dans l'école française de spiritualité. Et donc, il a lu Brémond et il s'est inspiré de Brémond. C'était également dans cette école française de spiritualité qu'est né le culte du Sacré-Cœur, même s'il a des racines un petit peu plus anciennes au Moyen-Âge. Mais c'est là qu'il s'est véritablement développé. Et donc, comme nous étions un petit peu des universitaires, quand Mgr Charles nous parlait de Brémond, nous avons eu la curiosité d'y aller voir. Et alors, on trouvait à l'époque, c'était à la fin des années 60, on trouvait quelques ouvrages chez les bouquinistes à une époque où bien mourait la génération de ceux qui avaient été les premiers acheteurs, à une époque aussi où on vidait les bibliothèques de séminaires. Et donc, nous avons pu en récupérer comme ça un certain nombre. Et donc, à ce moment-là que j'ai commencé à lire vraiment, à trouver que c'était par moments bien long, qu'il y avait des digressions, des polémiques avec certains autres auteurs qui dont la portée nous échappait un petit peu. Je dois avoir beaucoup appris de ce qu'il dit, de Bérulle, de Condrin, de Jean-Jacques Collier, de Jean-François Salle aussi, son approche du jansénisme. Si bien lorsque, bien des années plus tard, Alain Noël m'a dit, mais en parlant comme ça, c'est parce que je n'étais pas le seul, que beaucoup avaient trouvé des choses éclairantes dans Brémond. Alain Noël, le directeur des presses de la Renaissance, m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une sélection des morceaux choisis? Alors donc j'ai passé, je crois en fait, 5 ou 6 étés, à relire les... Alors il n'y a pas 13 volumes, il y en a 11 plus un 12e qui est l'index, hein. À relire cela et à essayer d'en garder, de voir si on pouvait n'en garder que 10%. Et voilà, donc ça donnait, donc il y a donc 11 volumes, 11 forts volumes, de plus l'index. Et là, donc on en a gardé qu'un peu plus de... Enfin, je ne suis pas arrivé à 10%, je suis arrivé quand même à un petit peu plus, mais en respectant absolument le plan, la structure, et en veillant à ne pas trop saucissonner la sauce, ni à rien réécrire, de manière vraiment à donner aussi accès au lecteur à la générosité, quelquefois un peu laxiste, hein, du style de Brémond.
Alors nous terminerons donc par là et je voudrais juste vous demander une dernière question. Brémond, vous le dites, peut nous introduire enfin, dans cette expérience directe avec Dieu, tout en étant accompagné ou dans le cadre d'un accompagnement spirituel. Vous parliez de Jean-Marie Lustiger, donc, que vous connaissiez bien. Est-ce que pour lui, cette œuvre de Brémond a eu une importance particulière ou est-ce que pour lui, c'était quelque chose qui appartenait à sa formation mais qu'il n'a pas continué à lire ou à fréquenter?
Pas que je sache. Hein. Je voulais, c'est une différence, par exemple, entre notre cardinal archevêque actuel, André 23, dit très bien dans le dernier livre de lui qui a été publié, La liberté dans la foi, hein, qu'il a été initié à la culture religieuse parce qu'on étudiait Pascal en classe, au lycée. Apparemment, Jean-Marie Lustiger n'a pas fait la même expérience, on ne l'a pas fait étudier Pascal, ou il n'a pas été choqué par Tartuffe, que sais-je. Hein. Mais donc, il n'a pas eu à régler ce problème. Et d'autre part, eh bien, lorsqu'il a connu le père Charles, celui-ci n'avait pas encore été amené par le fait qu'il était recteur de la basilique de Montmartre, à s'intéresser à l'école française de spiritualité, donc à Brémond.
Écoutez, Jean Duchesne, merci beaucoup pour cela. Je ne peux que recommander effectivement à tous nos auditeurs la lecture de ce livre-là, qui a l'avantage très important d'être effectivement un effet de choix, d'une part, et donc débarrassé de toutes les lourdeurs, peut-être, et ou de tous les débats peut-être un peu datés, enfin, qui existent dans l'édition complète des 11 tomes, donc. Et donc ce livre que vous venez de préfacer, enfin non pas de préfacer, mais de choisir, enfin voilà, sera une bonne manière pour tous nos auditeurs de bien entrer dans cette œuvre.
C'est un livre qu'il ne faut pas lire en commençant par la première page, en s'astreignant à aller jusqu'à la dernière. On peut le prendre au petit bonheur la chance. Parce que vous avez là-dedans une série, vous avez quelques études un petit peu structurées, mais ce sont des séries de monographies,
absolument,
de portraits, dont chacune est délectable. Donc si on a un quart d'heure à perdre, on peut très bien ouvrir au hasard et prendre, je ne sais pas moi, le donner encore un exemple, parce que c'est un nom qui fera peut-être rêver certains, La vie du vigneron de Montmorency, qui était un grand mystique, voilà. Et donc, il y a 2-3 pages à lire, et ces 3 pages, on peut les lire avec plaisir, et même en tirer quelques points de méditation.
Et on pourra retrouver dans ce livre, outre les classiques, entre guillemets, que nous connaissons d'une manière ou d'une autre, ces personnages, effectivement, que Brémond a refait naître de leur oubli, et vous aviez cité, et on a cité, le père Binet, Jean-Pierre Camus, et puis Boudon, voilà, qui sont parmi d'autres...
Entre autres,
qui sont parmi d'autres des auteurs...
Il faudrait aussi voir le père Rigoleux, que le père...
Qui sont nombreux, mais qui permettent, effectivement...
Tous ces jésuites bretons.
Voilà, de découvrir tous ces auteurs. Jean Duchesne, merci beaucoup d'être venu comme ça jusqu'à nous. Et donc, nous ne pouvons que recommander à nos auditeurs d'aller se plonger tout de suite. Alors, non pas de façon nécessairement linéaire, mais peut-être effectivement en piochant ici ou là. Donc, d'aller piocher et d'aller se nourrir de ce livre, donc d'Henri Brémond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, qui vient de paraître aux presses de la Renaissance. Merci.